Bonjour à tous et à toutes. Au micro, Paul Ouzi Meyerson qui a le plaisir de vous présenter Chronique pour la paix, une émission sur Radio Shalom. Chers auditeurs, comme je vous le rappelais lors de notre dernière émission, l'exceptionnel conflit politique que traverse Israël se poursuit et son intensité ne diminue pas. Depuis le 12 septembre, l'examen par la Cour suprême du projet de loi d'abrogation du critère de raisonnabilité qui conditionne l'élaboration législative relance la mobilisation populaire contre la réforme de la justice du gouvernement Netanyahou. Au cours de ces 9 derniers mois, chaque semaine, sans interruption, et dans l'ensemble des villes du pays, des dizaines de milliers de citoyens israéliens se mobilisent contre cette réforme qu'ils considèrent comme étant un coup d'État. Signe de l'extension de la lutte, maintenant ce sont en Judée et Samarie que des Israéliens manifestent simultanément avec ceux de Tel Aviv, Jérusalem ou Haïfa. Ainsi, il y aurait eu des rassemblements dans des agglomérations qui sont, à l'ordinaire, largement dominées par le courant national religieux qui participe à la coalition au pouvoir. Citons Maale Adumim, Ephrat ou Ariel. Certes, ce ne sont que quelques centaines de personnes minoritaires, mais le phénomène est très révélateur de l'inquiétude qui s'accroît face à l'extrémisme politique de la coalition au pouvoir. Autre nouveauté, les cortèges anti-réformes ont déployé récemment d'immenses copies de la Déclaration d'indépendance, comme si le document historique qui est à l'origine de la création de l'État d'Israël était en cause. Pourquoi l'apparition soudaine de ce symbole qui, jusqu'à aujourd'hui, allait de soi? Alors nous allons poser la question à Simon Epstein. Simon Epstein est docteur en sciences politiques. Historien, il a enseigné à l'Université hébraïque de Jérusalem. Il est l'auteur de plusieurs livres sur le peuple juif et Israël. Il a publié notamment « Une histoire du peuple juif au XXe siècle » et « Les chemises jaunes, l'extrême droite raciste en Israël ». Son dernier ouvrage, édité aux éditions Stock, s'intitule « 1930, une année dans l'histoire du peuple juif ». Bonjour Simon Epstein. Et Shana Tova à vous. Voilà. Alors, bienvenue sur notre antenne. On va apporter une petite éclairage sur ce qui se passe en Israël grâce à vous. Et d'abord, Simon Epstein, expliquez-nous pourquoi aujourd'hui, d'un seul coup, dans la rue, les centaines de milliers de manifestants sortent la déclaration de l'indépendance d'Israël en format big size.
Alors, il y a une raison profonde et une raison immédiate. La raison profonde, c'est que des dizaines et des centaines de milliers d'Israéliens ont compris que le coup d'État qui est pratiqué par la coalition scélérate qui tourne autour de Netanyahou et de ses corrompus et des religieux, là, qu'ils soient des religieux de type primitif ou des religieux de type fanatique, que ce coup d'État a pour but de détruire les valeurs essentielles d'une société moderne. Et ces valeurs essentielles, tout simplement, étaient prescrites, étaient mentionnées dans la Déclaration d'indépendance qui disait que l'État juif serait un État qui pratiquerait l'égalité sans aucune distinction de sexe, de race ou de religion. Et cette phrase qui est inacceptable pour les religieux. Ils n'admettent pas la notion d'égalité de sexe, par exemple, et par exemple, les religieux primitifs veulent mettre les femmes à l'arrière des autobus ou les faire voyager dans des autobus différents. Les religieux fanatiques ne veulent évidemment pas l'égalité entre juifs et non-juifs, surtout entre juifs et arabes, mais ils n'aiment pas non plus les non-juifs en général. Je veux dire, les arabes et les palestiniens sont les non-juifs qu'ils ont sous la main, mais le suprémacisme juif s'applique à tous les non-juifs. Et donc, ils ont un problème fondamental avec les valeurs telles qu'elles s'expriment dans la Déclaration d'indépendance. Ça, c'est la raison de fond, la raison profonde. Mais il y a une raison immédiate, c'est qu'un avocat, une espèce d'avocat religieux qui travaille pour le gouvernement, plaidait devant la Cour suprême lors d'une dernière confrontation devant la Cour suprême au sujet de la loi sur la plausibilité des décisions de la Cour suprême, c'était un débat juridique, et il en a profité pour attaquer et même pour essayer de ridiculiser la déclaration d'indépendance, en disant que la déclaration d'indépendance n'avait été acceptée que par 37 personnes qui n'avaient pas été élues, et que donc elle n'avait pas une grande valeur. C'est tout à fait faux. Les 37 personnes qui ont signé la déclaration d'indépendance avaient été élues en 1944, aux élections générales du Sud en 1944. D'autres ont été élus par le mouvement sioniste dans le monde. Et donc la déclaration d'indépendance était véritablement représentative de tous les courants, de l'extrême gauche à l'extrême droite, qui existaient à l'époque. Cette espèce de mépris pour la déclaration d'indépendance est typique de la manière dont le mensonge distillé par la coalition scélérate, et en particulier par les religieux qui sont maîtres en matière de mensonge, essayent de convaincre les esprits. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et c'est ça la raison pour laquelle nous brandissons tous déclaration d'indépendance, qui est un document historique fondamental, un très beau document d'ailleurs aussi, même sur le plan littéraire et proclamatif.
Bien sûr. Mais alors, comment vous expliquez que le représentant du gouvernement, hein, c'est ça, hein, Brombach, c'est le représentant du gouvernement, devant la Cour suprême, c'est-à-dire l'autorité suprême pour tout ce qui est la justice du pays, s'autorise à une telle déclaration. Il y a tous les tabous, tous les totems qui sont en train de s'écrouler, l'armée, la déclaration d'indépendance, enfin s'écrouler. On s'en prend à elle. C'est quand même étonnant pour un sioniste quelconque, quoi, un type qui aime bien Israël, qui passe dans la rue comme ça.
La coalition est fondamentalement une coalition anti-sioniste, en ce sens qu'elle combat les valeurs fondamentales qui ont été à la base de la création de l'État d'Israël, et notamment l'égalité entre tous les habitants du pays, qu'ils soient juifs ou pas, que ce soit des hommes ou des femmes, quelles que soient leurs opinions, qu'ils soient juifs ou chrétiens. Ce principe de base, qui est à la base de toutes les sociétés modernes, est aussi à la base de l'État d'Israël, et c'est ça qui est inacceptable pour les religieux, je le dis pour les deux catégories de religieux qui font partie de cette coalition scélérate, les religieux primitifs, c'est-à-dire les ultra-orthodoxes, qui sont primitifs et poussent à une espèce d'abrutissement généralisé de l'État d'Israël, avec fantasmagorie, un enseignement qui tourne à la sorcellerie dans beaucoup de cas. Et l'autre catégorie, c'est la catégorie des sionistes religieux fanatiques qui poussent, eux, au fanatisme, au racisme, bien entendu, à la haine de l'autre, etc. Pour ces deux catégories-là, la déclaration d'indépendance est inacceptable, précisément parce qu'elle prône l'égalité de tous les habitants du pays.
Alors là, je comprends plus, Simon Epstein, je comprends plus, parce que comment une coalition gouvernementale qui dirige un pays sioniste peut être contre la déclaration de l'indépendance? Sur quoi ils assoient leur légitimité? Si c'est pas la déclaration d'indépendance, c'est sur quoi elle... Parce que la déclaration d'indépendance, c'est la reconnaissance d'Israël par toutes les nations au sein du aux Nations Unies. Donc, quelle est leur légitimité s'ils n'ont plus de légitimité, s'il n'y a plus de déclaration d'indépendance? C'est fou, ça.
La légitimité dont ils se réclament, je ne parle pas des gens du Likoud qui sont, pour une bonne partie d'entre eux, devenus des militants d'extrême droite. Le Likoud, à l'origine, n'était pas un parti d'extrême droite, c'était un parti sioniste, nationaliste, bien entendu, mais libéral quant à ses opinions social et idéologique. Le Likoud tel qu'il est aujourd'hui, et qui est un parti essentiellement corrompu, si vous voulez, est secondaire. En ce qui concerne les partis religieux, leur base fondamentale, ou le document dont ils se réclament, c'est la Torah. La Torah, non pas telle qu'elle était, la Torah telle qu'ils l'interprètent. Mmh. Et ils interprètent la Torah dans le sens le plus fanatique, le sens le plus ethnocentrique, le sens le plus raciste que vous pouvez imaginer.
Littéraliste.
Et donc, ils disent le vrai document, le seul document qui est fondamental dans l'histoire du peuple juif, c'est pas la déclaration d'indépendance, qui est un document laïque, sioniste, représentant la totalité des forces politiques du mouvement sioniste et du Yishuv de Palestine, le vrai document, c'est la Torah. Mais la Torah telle que nous l'interprétons, pas telle que l'interprètent les juifs de la diaspora, pas telle que l'interprètent les représentants officiels des communautés juives dans le monde, pas telle que l'interprètent les rabbins français, par exemple, telle que l'interprètent les plus primitifs et aussi les plus sanguinaires des idéologues de cette religion conçue dans un angle primitif qui touche à la sorcellerie, si vous voulez, pour les uns, ou qui touche au fascisme et au racisme pour les autres.
Simon Epstein, vous êtes un historien connu, vous êtes venu souvent en France, je vous ai écouté au cours de vos interventions, présentation de vos livres, les gens vous connaissent dans la communauté, et au niveau international, vous avez été aux États-Unis. Vous êtes un homme pondéré, un libéral éclairé, vous exprimez toujours avec prudence. Et là, aujourd'hui, je vous sens énervé avec un vocabulaire dur. Comment vous expliquer que, d'un seul coup, que vous êtes sur la brèche?
Écoutez,
c'est une question un peu personnelle, je sais, mais c'est intéressant parce que tellement d'Israéliens sont changés.
Je vais vous répondre. Quand le fascisme vient dans un pays, nous, juifs, nous aurions aimé que les habitants du pays confrontés au fascisme prennent des positions antifascistes.
Absolument.
Nous aurions aimé que les Allemands, en 1933, soit majoritairement antifasciste et non pas fasciste. Nous aurions aimé que les Français, en 1940, soient majoritairement hostiles à la collaboration et non partisans de la collaboration. Et je dis, c'est exactement la même chose pour ici. Il y a un véritable danger fasciste. C'est un fascisme d'un genre un peu différent. Hein. C'est un fascisme théocratique. C'est un fascisme, si vous voulez qu'on en discute, je dirais que dans la typologie des fascismes, le fascisme israélien est plutôt de nature roumaine ou slovaque ou croate. C'est-à-dire que c'est un fascisme imprégné de religion, survalorisant la religion.
D'accord.
Mais sur le fond, c'est la même attaque contre les valeurs libérales, c'est la même attaque contre les données de base d'une société moderne. Et je le dis encore en mettant l'accent dessus, sur l'égalité de tous les habitants, sans distinction de race, de sexe et de religion. C'est le fondamental, c'est la base des sociétés modernes, c'est la base du libéralisme, et c'est cette base que la coalition scélérate que Netanyahou a montée avec les corrompus du Likoud et avec les primitifs des partis ultra-orthodoxes, et avec, bien entendu, les racistes de l'extrême droite, c'est cette base que cette coalition cherche à détruire.
Simon Epstein, là on se rend compte qu'il y a deux visions totalement différentes du sionisme qui s'affrontent. On peut même dire qu'il y a un sionisme et puis il y a autre chose, comme vous l'avez défini. Est-ce que vous pensez qu'il y a un compromis possible? Et politiquement parlant, est-ce que vous pensez que le président Herzog peut le dégager? Et qu'en pense la majorité des Israéliens?
Beaucoup d'Israéliens aspirent au compromis, mais je ne crois pas qu'il y ait de compromis possible. Et si vous voulez, posez-vous la question, est-ce qu'il y a un compromis possible entre les nazis et les antinazis, entre les fascistes et les antifascistes? Il n'y a pas de compromis possible. C'est-à-dire, ou entre un système théocratique primitif qui, sous certains aspects, évoque la sorcellerie plus que que le rationalisme, si vous voulez, et les conditions de base de fonctionnement d'une société moderne. Il n'y a pas de compromis possible. Alors, c'est vrai qu'on cherche un compromis politique, et c'est vrai que le président Herzog fait des efforts. Il y a beaucoup de critiques contre lui aussi, mais il fait des efforts. Je ne pense pas que le compromis soit possible, mais on ne sait pas ce que vont donner les événements, bien entendu.
D'accord. Vous m'arrêtez si je me trompe, Simon Epstein, mais j'ai l'impression qu'il y a un fantôme qui hante cette crise profonde. Et ce fantôme, c'est celui de l'occupation, entre guillemets, en Judée et Samarie, c'est-à-dire en Cisjordanie, et aussi en toile de fond la question palestinienne. Est-ce que c'est pas, comme disait l'autre, un fantôme hante le Moyen-Orient comme il y avait un fantôme qui hantait l'Europe?
Vous avez absolument raison, il y a un fantôme. C'est un fantôme qui s'est développé et c'est une des raisons pour laquelle l'extrême droite israélienne cherche à détruire le système constitutionnel qui existe. Parce que pour instaurer un système où on pourra annexer les territoires et réduire les Palestiniens à un statut de seconde zone, pour instaurer un système d'apartheid, en d'autres termes, il faut pouvoir détruire la Cour suprême et il faut pouvoir détruire le fonctionnement régulier des institutions. Et c'est une des raisons pour laquelle l'extrême droite religieuse, disons le parti de Smotrich, de Bezalel Smotrich, cherche et fait partie de cette coalition. La coalition est composée de divers groupes qui ont des intérêts divergents, mais pour eux, pour les gens de Bezalel Smotrich, pour ceux qu'on appelle les sionistes religieux, le but est l'annexion des territoires et, bien entendu, l'instauration d'une espèce de régime d'apartheid où les juifs auraient la suprématie et où les Palestiniens n'auraient plus aucun droit.
Alors, Simon Epstein, là vous êtes à Jérusalem, j'ai une question un peu sur l'espoir à venir. C'est-à-dire que récemment, nous avions Eli Barnabi sur les ondes de Radio Shalom et il nous disait que la mobilisation extraordinaire des citoyens israéliens était la divine surprise et que plus jamais rien ne serait comme avant après cette mobilisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Oui, absolument. Il y a eu là une levée de tout ce qu'il y a de productif et de constructif dans la société israélienne. Les scientifiques, les enseignants, les médecins, les gens du high-tech et du point de vue de l'armée, tout ce qui est significatif dans l'armée, je ne parle pas des cuisiniers ou des... cette levée, c'est en fait la levée des gens qui travaillent, qui aiment le pays et qui veulent que ce pays reste un pays démocratique, un pays libéral. C'est impressionnant et j'admets la notion de divine surprise, absolument.
Eh bien, voilà, le temps est passé, Simon Epstein, je vous suis reconnaissant d'avoir répondu à nos questions, c'est une période difficile, et je pense que nous aurons encore l'occasion de discuter et d'échanger là, sur ces problèmes. Voilà, je vous souhaite non pas un bon Kippour, mais un bon recueillement pour Kippour.
Très bien, très voilà. Bien. Voilà.
À bientôt.
À bientôt, merci.
Voilà, c'était Paul Ouzimierson à l'antenne avec Chronique Poula pour la paix. Et je vous souhaite à tous recueillement et introspection, justement, à tous pour le jour de Kippour qui arrive là.